Bienvenue sur RKS, l'esprit grenoblois. Ils animent des MOOC, se mettent en scène, inventent des expositions, publient des essais, voire des romans. Ce sont les acteurs de la connaissance qui veulent toucher le public, faire comprendre, dialoguer et alerter. Voici le Miroir des Sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. En fin d'émission, Sébastien Berger nous propose un échange avec Marie Mons, une artiste photographe qui devait présenter son travail sur la mémoire dans la société antillaise dans le cadre du mois de la photo organisé par la Maison de l'Image. Elle a été privée d'exposition, mais elle a quand même expliqué, elle a eu le temps d'expliquer à Sébastien quel était l'essence de son travail. Mais avant cela, on vous propose de découvrir un personnage important de la recherche grenobloise, Telex de l'AFP, le 28 octobre 1970 à 12h16. L'Académie royale des sciences de Suède, constituant le jury du prix Nobel de physique, a désigné mardi comme lauréat pour 1970 le professeur Louis Nell de l'Université de Grenoble, et le professeur Hannes Alfon de la Faculté des sciences de Stockholm. 50 ans plus tard, les chercheurs grenoblois préparent la commémoration de l'événement et célèbrent la mémoire de celui dont le parcours fut fondateur pour bien des laboratoires de recherche à Grenoble. Béatrice Grenier et Aurélien Masbeuf, tous deux chercheurs sur le polygone scientifique de Grenoble, sont interrogés en distanciel par Sébastien Berger.
Alors, Monsieur Louis Nell, c'est un homme du XXe siècle, hein, puisqu'il est né tout début des années 1900 et mort en 2000. Et donc, un chercheur qui a apporté beaucoup dans la recherche française, notamment dans le magnétisme, ça me touche beaucoup moi, puisque c'est mon domaine de recherche. Mais il a apporté au-delà un peu, c'est un bâtisseur de laboratoires et de grandes structures, et qui est notamment à l'origine de ce que Grenoble est aujourd'hui. Donc il a fait des études à l'école centrale à Paris, et il a rejoint tout d'abord le laboratoire de Strasbourg de Pierre Weiss, qui était son directeur, qui est devenu donc son directeur de thèse, et il a même eu assez rapidement une chaire d'enseignant là-bas. Et puis, a éclaté la Seconde Guerre mondiale, qui l'a poussé à partir, à émigrer avec toute l'université. En fait, ils ont, alors, tout d'abord échoué à Clermont-Ferrand, mais très vite, il est reparti parce qu'il était mobilisé pour la guerre. Il a notamment un grand nom c'est un grand nom aussi pour l'armée, puisque dans la marine, il a mis en place des méthodes de désaimantation des bateaux pour éviter que les mines allemandes viennent se coller aux coques. Donc, il a sauvé de nombreuses vies là-dedans. Puis, donc, pourquoi il fait ça? Parce que son domaine de recherche a vraiment été le magnétisme depuis le début. Et ce qui l'a un petit peu intéressé, et ce qu'il a repris dès qu'il est revenu, il a été démobilisé après, donc il a passé un peu de temps à Alger. Donc il est revenu très vite à Clermont-Ferrand, mais il a finalement échoué à Grenoble, notamment à cause d'un de ses collègues avec qui il était à l'armée. Et donc il a repris ses études en magnétisme. Donc ses études sur le magnétisme, ça a notamment été Pierre Weiss est connu puisque c'est lui qui a mis au point ce concept de domaine magnétique. Donc, un aimant peut se diviser en petits aimants, et qui fait que l'aimant global n'a pas forcément d'aimantation, puisqu'il peut être divisé en tout petits aimants qui s'annulent les uns les autres. Et donc, Louis Nell lui a poussé beaucoup plus loin ce concept-là pour sortir ce concept d'antiferromagnétisme, qui fait qu'en fait, cette subdivision, elle peut même avoir lieu à l'échelle atomique. Puisque chaque petit aimant porté par chaque atome peut être organisé de façon, ce qu'on va dire, antiparallèle. Donc, tous les aimants sont opposés les uns aux autres. Donc, on a une aimantation nulle, mais c'est quand même un objet magnétique. Et donc, voilà, il est arrivé à Grenoble où il n'y avait pas tant de choses que ça. Alors, on ne va pas dire qu'il a tout fait à Grenoble, parce qu'il y avait quand même déjà une grande activité de recherche à Grenoble, auprès notamment de l'université, qui était dirigée par le doyen Gosse à l'époque. Et en fait, ce qu'il a commencé à créer, c'est un laboratoire de magnétisme, mais très vite, il est parti plutôt sur les machines électrostatiques. Et il a monté un laboratoire qui était l'Institut Fourier. Et puis ils se sont rendus compte très vite qu'ils avaient suffisamment peu de place pour avoir besoin de prendre de l'espace. Et puis il y avait cette presqu'île scientifique qui était à l'époque encore un terrain militaire. Donc, de par notamment ses liens sûrement avec le militaire, il a eu le droit d'aller construire un laboratoire là-bas. Et puis, bah, ça s'est enchaîné, en fait, très, très vite, de par…
Il a, pour ses bons et loyaux services pendant la guerre, les militaires lui ont cédé du terrain, c'est ça ?
Non, je ne pense pas que ça soit passé exactement comme ça. Alors ça, je ne serais pas assez expert, on va dire, dans l'histoire de Neel pour dire que c'est de par ses bons loyaux services, mais très certainement, le fait qu'il ait eu une renommée dans la marine lui a forcément ouvert quelques portes. Et donc, ils ont construit ce premier laboratoire sur ce site-là. Et puis, Louis Néel, c'est quelqu'un qui a senti les différents vents, et notamment, par exemple, quand De Gaulle a voulu promouvoir l'énergie atomique en créant le CEA, il a dit, on va faire un centre d'études nucléaires, mais à Grenoble, ce qui est devenu le CENG. Et puis donc, à partir de ce laboratoire initial posé sur la presqu'île, il y a différents laboratoires scientifiques qui ont émergé, que ce soit dans les différentes thématiques de recherche de tous ces collaborateurs pour les très basses températures, les aimants très forts, etc. Il y a le CENG qui est apparu. Et puis,
Pardon, comme vous présentez les choses, on a l'impression qu'il avait un peu carte blanche, on lui a donné un terrain. Et puis, il a senti le vent venir, il s'est dit, tiens, je vais proposer de créer un centre du CEA, je vais proposer de créer tel ou tel laboratoire. C'était un peu comme ça à l'époque.
C'était un peu c'était pas du tout le même monde que maintenant. Voilà. Donc, sans dire que l'argent coulait à flot, le CNRS a été créé juste avant la guerre, également par M. Perrin. Et c'était une époque un peu, c'était le gaullisme avait quand même ça pour lui, qui était de donner beaucoup d'argent pour la recherche fondamentale avec l'espoir d'en sortir des applications, comme le nucléaire civil en était un peu une preuve. Et donc, c'était une époque où il y avait effectivement beaucoup d'argent pour qui était capable de démontrer le pouvoir attractif de telle ou telle recherche. Donc oui, il avait une forme de carte blanche, mais parce que il savait monter les choses. Et notamment, à Grenoble, il y avait un gros vivier de recherche couplé au monde industriel, au tissu industriel, et il a su profiter de ça et de créer énormément d'entreprises qui ont collaboré avec ses recherches. Donc, on va parler, c'est pas lui qui a directement fait Air Liquide, mais Air Liquide a profité aussi des recherches ici. Lui, sa grosse entreprise, c'est la SAMES, qui est maintenant une grosse entreprise, qui est la SAMES Kremlin, qui a plus de 20 000 employés et qui est une multinationale. C'était un moment où il était possible, sans dire que l'argent coulait à flot, il était possible d'avoir des guichets qui donnaient énormément d'argent.
Et si je peux me permettre de compléter juste un truc, c'est aussi à Louis Néel que l'on doit la construction de l'Institut Laue-Langevin, qui est donc le réacteur nucléaire à Grenoble, qui est toujours en fonctionnement aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important dans le développement de la recherche grenobloise.
Et est-ce que vous diriez qu'il a eu qu'il a été un petit peu visionnaire dans toutes ces… tous ces outils de recherche qu'il a créés, qui finalement forment aujourd'hui un ensemble assez cohérent, on a l'impression. Comme vous le décrivez, il a créé différentes choses assez variées sur un même site, plus ou moins. Et aujourd'hui, ça a donné un peu… il est à l'origine d'une grosse partie de ce qui existe aujourd'hui, en l'occurrence. Et est-ce qu'il se projetait dans l'avenir pour… Est-ce qu'il a fait au hasard toutes ces créations, ou est-ce qu'il s'est dit tout ça c'est assez cohérent et ça va converger ou ça va travailler ensemble ?
Je pense que il y avait forcément une vision qui était d'une part ses recherches à lui qui avaient besoin de certains développements, donc qui ont donné naissance à tous ces laboratoires grenoblois, mais il y avait aussi justement une vision à plus long terme de ce que devait être la recherche. Peut-être pas de la recherche sur certains points ou sur, comme on le fait maintenant avec des appels à projets qui dirigent la recherche, mais plus sur ce que devait être la recherche dans son ensemble, comme étant une entité qui réunissait à la fois les universitaires et les académiques, des militaires et des industriels. Donc voilà, c'était un peu cette vision-là qui lui a permis de bâtir tout ça.
Je pense en effet qu'il avait une vue assez globale de tout ça, parce que par exemple, dans nos archives, on a une photo de Louis Néel avec un plan du CENG où on voit aussi toutes ces entreprises, la SAMES, Air Liquide. On voit qu'il a un peu bâti tout ça vraiment de façon cohérente, qu'il n'a pas pensé les laboratoires un par un au fil. Vraiment quelque chose de concerté et qui formait un ensemble.
Alors, Louis Néel a laissé donc des traces très visibles de son action, de son passage à Grenoble. Il a également laissé des traces en science. Si on peut revenir un instant sur l'aspect scientifique, on a donné son nom à certains objets, phénomènes, sans entrer dans les détails. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors, c'est Louis Néel, quand il est arrivé à Grenoble, donc, il avait tout ce bagage qu'il avait eu à l'Université de Strasbourg avec Pierre Weiss, qui était donc cette histoire de domaine magnétique. Et donc, il a été le premier à étudier les aimants, non plus dans des structures, dans des volumes, mais plutôt dans des surfaces, puisque c'était, on va dire, la microélectronique émergente. On savait qu'on devait aller essayer de minimiser les éléments pour pouvoir utiliser ses propriétés magnétiques dans des dispositifs. Et donc, il a été le premier à étudier vraiment les domaines dans les films minces. Et donc, entre ces domaines sont séparés par des parois. Et quand les couches sont très, très fines, on peut avoir un type de paroi où l'aimantation tourne pour s'inverser entre deux domaines. Et dans le cas de parois très, très fines, dans des couches très, très fines, on parle désormais maintenant de paroi de Néel, puisque c'est lui qui est le premier à avoir parlé de ça. Mais il a aussi donné son nom à d'autres choses. Il y a la température de Néel aussi, qui est quand voilà, on va...
Si je peux donner en effet un deuxième exemple, il y a le ferromagnétisme, qui est quelque chose d'assez connu qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. C'est quand tous les petits aimants sont alignés dans le même sens. C'est grâce à ça que vous avez, par exemple, les magnets sur les frigos. Eh bien, il y a une deuxième façon pour ces petits aimants de s'organiser, qui est un vers le haut, un vers le bas, un vers le haut, un vers le bas. C'est ce qui forme l'état antiferromagnétique. Et c'est Louis Néel qui a découvert cet ordre. Et d'ailleurs, on l'appelle l'ordre de Néel. Et la température en dessous de laquelle cet ordre apparaît s'appelle la température de Néel.
D'accord. Donc, quand on met des magnètes les uns à côté des autres sur le frigo, ils s'orientent à l'endroit à l'envers, c'est ça?
Alors non, justement, les magnètes, c'est parce qu'ils sont tous dans le même sens que c'est attiré par le métal. Alors que dans l'antiferromagnétique, comme ils sont un vers le haut, un vers le bas, un vers le haut, un vers le bas, la résultante fait zéro, et là, il n'y a pas de force d'attraction.
D'accord.
L'ordre de Néel a été mis en évidence pour la première fois de manière microscopique, grâce justement à la diffraction des neutrons.
Très bien, d'où l'Institut Léo Langevin, qui est une source
voilà,
de
tout à fait.
Pour la recherche.
L'humanité manifeste en valse et doucement tendue. Quelque part à Paris sur la scène à minuit, quartier des bruits troqués perdus. Il y a des îles dedans, balapanam, ça joue la java, la dame, balajoman, polo, julou, marlou, gigolette, apache, dactylo, mimi, pinson. Ça lui a du malheur improvisé, les mains éclairs, si biche tendue. Délicatement se poser, passer, nerf du verre à tout l'humidité. Et de gaz y a fait les lots des villages, de bouscatel à pégu, du cabre à cordéon, d'altérita. Pas de mystère à terre du Grand Nord au Gabon de Chine, à Zanzibar, à Gézamar. Il souffle universel, l'étrange et la cadence. Il dit le trait d'union de Madagascar à Saint-Domingue et du Cap vers aux Antilles. Allier la trombe à laisser Galfounan, al merengue tissé. Paisanos Amérique, du Mexique au Brésil, de Québec, en Louisiane, en Colombie. Il chamamé, charanga, foros, idée comme blues. Ardès d'Anouest, de Bayonne, à l'Ural, d'Italie, des Tigal, Bulgare, Romanovitz. Il trixi, tarantel et la chenise, à la jazz. J'allume, agume, exode, accordez-vous, malheur à l'air industriel. La rurale en chemine à vol d'oiseau, turbine, cadence parfaite, une enfant d'elle. Y'a plus de digue d'amoine, mal à banane, ça fait du fric à madame, le macadam, chez l'usbécou, l'octobre, les provoqueurs, les polyfricains, les marchandais. J'allume, agume, mes universités, depuis tout petit la société. Et pour les brissonnières, à faire affaire à la chanson, faire une enfant phare. Et quand pour les rulères n'est plus de templiers, je mets la vache folie, n'achève pas l'engagé rêve, une liberté. Comme nous l'avons, y'a le. Treu nasa, menu i treu nano, sao camare di trau cave, me di nostro trau, moto treio sao via, sao avanzat, sus camins de fremins, alucat, cum las memorias escutate los arrius d'aigues burlades de bus, los deinats, las bus d'espoles de langatge amassat tal escriu en pluralitat madura. Ma l'humanitat manifeste, passé futur rhume entendu. En banlieue, c'est la nuit du vide après-midi, les mots dans un couplet perdu. Satan, les phrases à la même, pas des tadam. Java, du rab à la main, bagarana. Chez les loulous, marlou, les paumés, les ibis, restent des frais sans papier. Sa vie m'a vu malheur improvisé autour de minuit, l'enfant d'âge. Beaucoup de vassalisés viennent à l'utoping et penchent à l'ouvre à la vie. Et de Bézi à Buffalo, domaine à Bordeaux, d'Occitanie, 36-15 vocales, océan d'identité.
Ordre de Néel, ferrimagnétisme, paroi de Néel, température de Néel sont autant de concepts et de lois de la physique relativement méconnus du grand public, mais qui valurent à Louis Néel l'attribution du prix Nobel de physique le 11 décembre 1970 à Stockholm. Et que nous dit le site web des prix Nobel à son propos ? En 1932, Louis Néel décrivait le phénomène d'antiferromagnétisme où les moments magnétiques proches dans un matériau sont orientés dans des directions opposées. En 1947, il a également décrit le phénomène de ferrimagnétisme où les moments magnétiques sont alignés dans des directions opposées mais de magnitudes différentes. Un peu difficile quand on n'est pas spécialiste du magnétisme. Il faut dire que les sujets de recherche de Louis Néel n'aident pas vraiment à sa popularité tant ils sont abscons pour des gens qui n'ont pas une culture de chercheurs. Et pourtant, le site Nobel souligne que les résultats de Néel sont devenus un facteur important dans le développement de la mémoire informatique et d'autres applications. Suite de l'entretien de Sébastien Berger avec Béatrice Grenier et Aurélien Masbeuf dans la perspective des 50 ans du prix Néel. Du prix Nobel de Louis Néel.
Il a cette phrase qui est un peu qui est restée dans les mémoires, c'est que Louis Néel dit que de toute façon l'antiferromagnétisme et le ferrimagnétisme, qui est une autre forme d'antiferromagnétisme pour parler grossièrement, donc c'est le thème qui est associé à ce prix Nobel, lui dit de toute façon ça, si je l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait.
C'est ce qu'il a dit lors de son discours.
Il le dit pas dans son discours, mais il le dit dans ses interviews après. Il dit que voilà, c'est quelque chose qu'on aurait très bien pu découvrir sans lui. Et lui, il pense notamment que son prix Nobel, il vient aussi de tout ce qu'il a construit à Grenoble. C'est son activité plus de bâtisseur et de fédérateur dans la recherche qui lui a presque valu ce prix Nobel.
D'accord, parce qu'un prix Nobel, normalement, il est attribué, c'est pas attribué pour l'ensemble des œuvres de quelqu'un, c'est pour une découverte
spécifique. Une découverte spécifique, ouais.
Donc, ce que vous dites, c'est que ce pourquoi le prix Nobel lui a été attribué, lui, il considère que c'est pas vraiment ça son véritable apport, son véritable marque, quoi.
Il le nie pas que effectivement l'antiferromagnétisme c'est une découverte majeure, mais quand il a son prix Nobel, ce qu'il va dire lui, c'est que ça n'a pas un impact si énorme que ça, parce qu'il y aura aucune application qui en découlera. C'est uniquement de la belle physique, de la belle science. Alors ça, l'avenir lui a donné tort, puisque maintenant l'antiferromagnétisme on l'utilise tous les jours, hein, dès que vous faites tourner un disque dur. Heureusement qu'on a de l'antiferromagnétisme, sinon on pourrait pas lire les données sur notre disque dur.
Donc c'est le prix Nobel qui a eu raison en fait. Hein.
Et c'est on va dire c'est ça exactement. Mais voilà, c'était je pense que voilà, effectivement cette recherche elle est très très importante, l'impact de ces recherches était très très important. Mais je pense aussi comme lui que le comité Nobel a forcément vu son activité, c'était voilà l'Institut Laue-Langevin qui l'apparition de l'SRF juste après qui était déjà dans un carton, qui voilà, qui a vu tout ça et qui s'est dit bah. Et en plus, ce monsieur est quelqu'un de un très bon physicien, donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le récompenser pour l'ensemble de son œuvre, même si effectivement ce prix Nobel est associé à la découverte de l'antiferromagnétisme et du ferrimagnétisme.
Donc on est 50 ans après. Quel est le sens d'abord d'une telle commémoration ? Quelle est l'intention derrière l'envie de commémorer cet événement ?
Déjà, c'est de lui rendre hommage, parce qu'avec tout ce que l'on vient de raconter, c'était vraiment un grand homme, un grand chercheur. Et au-delà de ça, il y a vraiment de notre part une volonté d'intéresser le grand public, d'essayer de rendre un peu cette physique accessible à tous grâce à des conférences vulgarisées que nous allons organiser. Et il n'y aura pas que ça, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Cet événement va s'accompagner aussi d'expositions, d'ateliers, de tas de choses pour vraiment, oui, c'est vraiment ça, lui rendre hommage, et pas que au sein de la communauté scientifique, mais on aimerait vraiment faire venir dans cet événement toute la population, enfin un grand nombre de la population de la métropole grenobloise.
Disons que le grand public connaît le nom de Néel, et encore pas tous, parce que voilà, il est associé, il n'y a qu'un parvis Louis Néel dans les rues de Grenoble, mais c'est quand même quelque chose qui est dans l'imaginaire des gens, et quelque chose est connu comme étant quelqu'un qui a bâti la ville de Grenoble comme elle est aujourd'hui. Et donc c'est montrer au grand public ce que c'est que la science qu'il y a derrière ce monsieur. Et puis comme moi et Béatrice, on est tous les deux dans le magnétisme, on trouve que c'est une science qui est tellement belle et jolie et pleine d'applications et d'objets didactiques que c'est l'occasion de fédérer un petit peu tout le monde autour de cette science-là. Et puis, en plus, ça va être aussi nous permettre de réunir de nombreux chercheurs de France et d'ailleurs autour qui sont dans ce domaine-là, autour de cette célébration, de nous retrouver et puis de partager ensemble cette envie de transmettre la science vers le grand public.
Donc, j'imagine que le projet est né dans la communauté scientifique. C'est une initiative des scientifiques et des gens qui travaillent dans le magnétisme, hein, j'imagine, ceux qui se considèrent peut-être comme vous, comme les enfants ou les héritiers de Néel. Comment l'équipe a été constituée? Comment ça s'est fait au départ?
Alors, c'est moi qui ai été contacté au départ par Alain Fontaine, qui est une grande figure scientifique grenobloise et française aussi, qui avait organisé un petit événement, une petite conférence pour les 40 ans. Il m'a demandé, Aurélien, est-ce que tu voudrais pas faire quelque chose d'un peu plus grand pour les 50 ans de Louis Néel? Et donc, j'ai commencé à prospecter un peu et puis envoyer quelques mails à trouver des gens qui étaient motivés pour s'occuper de ça avec moi, d'organiser quelque chose pas seulement un hommage, mais quelque chose de didactique, voire aussi de dialectique, pour essayer d'aller pousser plus loin tout ce qu'on pourrait avoir comme vision de ce que Néel a apporté à Grenoble. Et puis donc, parmi eux, il y a eu Béatrice, il y a aussi Nicolas et Laura, qui sont avec qui on a constitué cette petite équipe de 4 chercheurs qui depuis maintenant plus de 6 mois, sommes en train de monter cet événement qu'on veut protéiforme. Donc, plein d'idées, plein de travail d'organisation.
Oui, peut-être juste pour préciser, Nicolas Rougemaille et Laura Schex sont donc au CNRS, à l'Institut Néel, justement, institut qui porte le nom Louis Néel.
Qui est un gros laboratoire du CNRS qui est sur cette fameuse presqu'île scientifique.
Voilà. Qui est le premier, l'équivalent du premier laboratoire, du premier bâtiment sorti de terre sur cette presqu'île.
Alors, j'imagine que vous avez commencé par une phase un peu de brainstorming pour imaginer tout ce que vous pourriez organiser autour de cette commémoration. Ça a été assez riche, j'ai cru comprendre. Vous avez eu beaucoup d'idées.
C'est ça.
Vous les avez toutes retenues, il y avait des choses un peu incongrues
Non, je dirais que pour le moment, on a en effet pas mal d'idées de choses que l'on veut faire, et tout est en train de s'organiser progressivement. Donc, il va y avoir déjà une série de conférences. Donc ça va se passer les 11, 12, 13 juin, comme on le disait tout à l'heure, 2021. Donc tout d'abord, il y aura une série de conférences données par des scientifiques, mais vraiment dans un souci, ce sont des scientifiques très pédagogues dont le but va être, leurs discours ne seront pas adressés qu'aux scientifiques, mais ils vont vraiment faire un effort de pédagogie, de vulgarisation pour pouvoir intéresser aussi le grand public. Je sais, on va peut-être pas rentrer dans le détail des exposés, mais donc il y aura une partie comme ceci. Il y aura aussi un historien qui va venir vraiment nous parler de Louis Néel, mais du point de vue d'un historien. Et nous aurons aussi l'immense plaisir d'avoir Marguerite Guély, la fille de Louis Néel, qui va venir nous parler de son père. Parce que voilà, cet aspect est aussi intéressant de nous parler de l'homme qu'il était, du père qu'il était. Et voilà, bon, le programme n'est pas complètement finalisé. Hein, nous espérons encore avoir quelques autres orateurs.
Et ça ne va pas parler que science, alors. Hein,
c'est non, ça ne va pas.
L'idée, en fait, l'idée de ce premier brainstorming qu'on fait dans la conférence, c'était comment faire découvrir au public les différentes facettes de Louis Néel. À la fois sa recherche, son apport dans la recherche en général, dans la physique en particulier, dans le magnétisme encore plus particulier, mais aussi son apport qu'il a eu côté dans l'aspect militaire ou industriel, et également avoir une vision de l'homme qu'il était à travers ses collaborateurs, ses anciens étudiants ou même de sa famille. Donc voilà, on voulait pouvoir donner un aperçu global avec plein d'apports différents de sa personnalité et de son charisme, on va dire, puisqu'il y a du charisme.
Voilà, et donc, on est toujours en train de travailler sur ce programme, mais a priori, on va réussir à réunir tous ces aspects-là. Et donc, à côté de ces conférences, ben, il va y avoir plusieurs choses. Donc, déjà, une exposition, nano-art, où l'objectif, ce sera vraiment d'exposer des photos tirées du milieu de la recherche dans le thème du magnétisme, mais avec un côté artistique. Donc, ça va vraiment être une exposition scientifico-culturelle, enfin, scientifico-artistique, on pourrait dire. Nous comptons aussi faire une petite exposition sur Louis Néel lui-même, avec des photos, des objets lui ayant appartenu, etc. Toute une partie pour avoir un peu des événements ludiques accessibles au grand public, ça va être en fait des ateliers, des démonstrations d'expérience, en lien bien sûr avec le magnétisme, que les personnes pourront elles-mêmes manipuler un petit peu, jouer avec pour mieux comprendre ce qui se cache derrière cette science, avec donc de jolies petites expériences.
Une petite fête de la science, quoi, sur le magnétisme.
Voilà, c'est vraiment du type fête de la science. Ce sera le même genre de petite manip. Là, vraiment sélectionné dans le domaine du magnétisme, puisque c'est bon le sujet de Louis Néel.
Alors, juste ces petits ateliers, ils ont été notamment prévus en complément initialement, et puis là, ça va un petit peu remplacer. C'est qu'il y avait un grand événement qu'on avait voulu et qui devait être possible, mais on va peut-être en reparler, les conditions sanitaires étant ce qu'elles sont, on va devoir repousser. C'est la venue d'une très grande exposition qui a été créée par des collègues de Nancy, qui est actuellement, je crois que ça ferme ce week-end d'ailleurs, qui est actuellement Palais de la Découverte. Qui s'appelle Magnétique, tout simplement, et qui est la même façon qu'une fête de la science, beaucoup de petits ateliers, mais là, vraiment, sous un aspect très muséal, avec des expériences. Bon, voilà, elle a tout à fait sa place au Palais de la Découverte.
Et alors, ça ferme cette semaine, je pense que c'est fermé actuellement.
J'imagine. C'est peut-être fermé depuis la semaine dernière, peut-être, je sais plus.
Bah non, mais en ce moment, les musées sont fermés. Donc,
c'est vrai que les musées sont fermés.
Non, c'est sans doute fermé, en effet.
Ouais, elle devait, parce que le Palais de la Découverte ferme, de toute façon, espérons le non définitif, mais pour au moins quelques années de travaux. Et donc, normalement, cette exposition était disponible et devait venir à Grenoble dès le mois de décembre. Mais voilà, on va repousser ça et du coup, on va devoir s'adapter à son calendrier et du coup, repousser sa venue à 2022. Mais voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un tremplin continu pour accueillir cette exposition en 2022 à Grenoble.
Et d'ailleurs, on espère, lors de notre événement des 11, 12, 13 juin, faire venir quelques expériences de l'exposition magnétique, justement pour un petit peu la promouvoir et faire un tremplin, comme disait Aurélien, en attendant l'année suivante où l'exposition viendra. Et un autre chose aussi que nous allons faire dans le cadre de cet événement, nous allons faire venir la compagnie La Tournoyante, qui est donc qui vont nous faire un spectacle pour nous faire découvrir leur approche circassienne du magnétisme à travers des ateliers en journée et un spectacle aérien le soir, donc aérien mais sans fil, puisqu'ils utilisent justement le magnétisme pour pouvoir se déplacer, danser sur des murs, etc.
Et voilà. Et on va dire que peut-être une dernière chose, enfin plus, il y a encore d'autres choses, hein, mais il y en a une qui est la première à avoir vraiment pris forme. On a récupéré l'intégralité des publications de Louis Néel. On en a fait une archive ouverte. Donc, c'est-à-dire que bon, c'est un petit peu le modus operandi en ce moment de la recherche, c'est se libérer un peu des carcans financiers des éditeurs. et donc de proposer toute forme de publication scientifique issue de la recherche académique sous forme d'accès ouvert, donc ouvert à tous et à n'importe qui, sans besoin d'abonnement. Et donc l'intégralité des œuvres de l'UNEL, qui fait à peu près, on va dire, à peu près 200 publications scientifiques, qui ont été regroupées dans une archive ouverte, qui est donc disponible à tout le monde, donc au grand public, mais surtout beaucoup plus pour tous les chercheurs qui ont besoin d'y collecter des informations.
Oui, là, on parle d'articles de recherche, c'est-à-dire les articles qu'écrivent les scientifiques lorsqu'ils ont découvert quelque chose et dont ils veulent faire part à leur communauté. Donc, ce sont des articles spécialisés, très pointus, qui ne sont pas compréhensibles par tout le monde. Il faut être vraiment de la bonne spécialité pour les comprendre, les suivre. Est-ce que, donc, c'est des articles qui ont maintenant plusieurs dizaines d'années, ils ont encore un intérêt pour vous, pour des scientifiques comme vous ?
Oui, parce que c'était une époque quand même où il y avait un temps beaucoup plus grand, je dirais, qui était consacré à la rédaction de recherche et de protocoles de recherche. L'accent était beaucoup plus mis sur la physique sous-jacente et donc vraiment la compréhension des processus que nous, on a beaucoup, je dirais, moins maintenant dans la publication scientifique, puisque on est un peu plus dans une course à la publication. Et du coup, à l'époque, je trouve qu'on avait plus tendance à faire des articles plus longs, donc beaucoup plus conséquents. Nous, on va dire que la taille traditionnelle des articles scientifiques, maintenant, c'est entre 5 et 10 pages. Là, c'était plutôt des articles d'une vingtaine de pages, au moins, à minima, pour voilà, avoir le temps de présenter. Puis parce qu'il y en avait beaucoup moins aussi, hein, qui étaient publiés en même temps. Là, on croule maintenant sous les publications. Et donc, c'était, voilà, ça, elles ont un intérêt. Alors, déjà historique, puisque voilà, ça nous permet de nous remettre un petit peu à jour sur quand sont apparues ces premières expériences. Moi, par exemple, en faisant ces archives, j'ai découvert que mon activité principale, qui est la caractérisation du magnétisme à l'échelle nanométrique, eh ben, des images que je fais, elles ont déjà été faites par Louis Néel dans les débuts des années 60. Voilà, je savais que j'étais pas le premier à le faire, mais voilà, je me suis quand même rendu compte que 50 ans avant que moi j'arrive dans la recherche, ces images étaient déjà faites et maîtrisées et comprises à Grenoble.
Ça vous a pas désespéré, j'espère?
Non, pas désespéré. Ça m'a même plutôt conforté dans l'idée que voilà, on marche sur les traces quand même de cette personne à qui on rend hommage et que du coup on a des outils plus puissants, on a une compréhension des phénomènes qui est beaucoup plus avancée, mais que donc cette méthode de caractérisation est quelque chose qui était déjà entreaperçu par Néel comme étant un outil ad hoc et idoine pour une telle caractérisation. Non, ça me démoralise quand même pas.
Suite du Miroir des sciences consacré à Louis Néel, prix Nobel de physique en 1970 et fondateur de nombreux laboratoires de recherche grenoblois. Béatrice Grenier et Aurélien Masbeuf, chercheurs grenoblois, confient à Sébastien Berger leur ambition sur l'organisation du cinquantenaire de ce prix Nobel. Le personnage de Louis Néel n'est pas si connu que ça du grand public. En 1990, dans la revue d'histoire du CNRS, Dominique Pestre publie un article sur Néel et l'étude du magnétisme à Grenoble dans la période 1940-1965. Et il titre « La création d'un empire dans la province française ». C'est dire si l'héritage de Louis Néel est important. Dernière séquence de la conversation de Sébastien Berger avec donc ses deux invités, Béatrice Grenier et Aurélien Masbeuf.
Vu tout ce qu'il a réalisé sur la ville de Grenoble, en effet, ça nous semble intéressant de pouvoir sensibiliser la population à cela. Et on pense, on espère qu'au travers de cet événement qui devrait attirer beaucoup de monde, en tout cas c'est ce qu'on vise, en effet, ça va être un moyen de parler davantage de lui, de le faire plus connaître. Et bon, il se trouve que lorsque j'ai contacté sa fille pour l'inviter à venir nous parler de son père, j'ai senti qu'elle était ravie qu'on organise un tel événement parce que en effet c'est bien de rendre mémoire à cet homme et de faire parler de lui davantage.
Oui, on peut espérer qu'il va rejoindre un peu les quelques gloires locales grenobloises, comme au même titre que peut-être Stendhal, dont un livre, Le Rouge et le Noir, est au programme du baccalauréat de français cette année, et dont on parle quand même souvent, et bien au-delà de Grenoble. C'est vrai que c'est étonnant. Alors, est-ce que c'est du fait que ce soit un scientifique et que les scientifiques sont quand même moins amenés à être connus et reconnus par tout un chacun, ou est-ce que c'est ce personnage-là, vous avez une idée là-dessus?
Bon, il est sûr que ça doit jouer, parce que pour reprendre l'exemple que vous mentionnez, comparer Stendhal à Louis Néel, c'est clair que presque tout le monde a lu une fois dans sa vie un livre de Stendhal. C'est sûr que la littérature va toucher n'importe quel Français, alors que la science physique, pour déjà savoir un peu qui est Louis Néel, il faut déjà avoir un intérêt un peu pour les sciences. Donc c'est sûr que forcément, déjà, ça va toucher moins de monde. De même qu'on ne pourra pas mettre l'ordre de Noël et l'antiféromagnétisme au sujet du bac, exemple.
Mais voilà, je pense que c'est oui, effectivement un problème des scientifiques. Bon, on va dire le plus grand nom scientifique grenoblois, ça reste quand même Joseph Fourier, qui était d'ailleurs un ami, alors pas un ami, hein, puisqu'ils étaient plutôt en conflit avec Stendhal, mais qui voilà, qui est un des très 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 grands noms français de la recherche et un scientifique très très connu et qui toutes ces recherches ont donné à tout ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est grâce notamment aux outils mathématiques développés par Fourier. Fourier a une vie exceptionnelle qui s'est faite à Grenoble, mais pas que, hein. Il a vécu la Révolution, la Terreur, la Restauration, les campagnes d'Égypte, etc. Peu de gens connaissent la vie et de qui est ce Joseph Fourier. Connaissent l'université Joseph Fourier parce que c'est l'université de Grenoble, mais très peu de gens savent qui est Joseph Fourier et qu'est-ce qu'il a réellement fait. Donc, on va dire que on va essayer de faire d'une pierre deux coups, que les gens connaissent un petit peu mieux Néel, mais aussi sachent pardon, pourquoi ce monsieur Néel est connu. Donc, il y a à la fois sa recherche, son apport à la recherche, mais aussi son apport à la ville de Grenoble.
Et en plus, contrairement à Fourier ou à Dwight-Voss, etc., il se trouve que dans la ville de Grenoble, on n'a ni rue ni place du nom de Néel. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est encore moins connu du grand public que Joseph Fourier, comme disait Aurélien, l'université Grenoble-Alpes aujourd'hui résulte de la fusion de plusieurs universités, dont l'université Joseph Fourier. Donc, c'est sûr que ça joue également.
Et ça n'aurait pas été une idée de saisir cette occasion pour demander à ce qu'une rue soit baptisée Louis Néel dans Grenoble.
C'est en cours.
C'est en cours.
On va, voilà. Donc, on travaille étroitement avec la mairie et la métro de Grenoble, hein, pour cette organisation, pour que ça, effectivement, que ça soit un événement qui dépasse le cadre scientifique. Et donc, on va effectivement essayer de voir avec ces institutions locales comment on pourrait réussir à faire rentrer Néel un peu plus dans le patrimoine de Grenoble. Et puis après, les gens, ils ont aussi, il n'y a pas que l'aspect. Alors, il y a une chose que j'aime beaucoup, moi, qui est quand on, il y a une interview qui est disponible sur le site de la bibliothèque de Grenoble, une interview de Néel qui était en 93, qui faisait un peu un bilan de sa vie. Et donc, c'est là, notamment, il redit encore une fois que son prix Nobel lui est a priori plus attribué pour son rôle de bâtisseur de laboratoire que l'antiféromagnétisme. Et puis il finit quand même son interview en disant, bon, voilà, n'empêche que si je compare le Grenoble où je suis arrivé en 1940 et le Grenoble de maintenant, qui était donc début des années 90, bah, je trouve qu'il y a quand même un petit peu trop de béton. Et donc on veut aussi, voilà, mettre ça à portée des Grenoblois, qu'ils aient un petit peu aussi cette vision-là de, effectivement, Louis Néel a apporté beaucoup de choses à la ville de Grenoble, mais voilà, il a quand même aussi fait installer un réacteur nucléaire à côté du centre-ville de Grenoble.
Oui, c'est pas si courant dans les grandes agglomérations.
C'est pas si courant dans les grandes agglomérations. Et donc voilà, c'est aussi apporter, alors sans parler de droit d'inventaire, c'est quand même, voilà, pouvoir discuter avec les Grenoblois. On a notamment prévu un cycle de conférences débat autour de, voilà, de toute cette approche que Néel a eue au sein de la vie grenobloise, comment il a transformé la ville. Et donc de pouvoir discuter voilà, de son impact, qui puisse être aussi considéré comme parfois négatif par ce que lui-même disait. Il y a eu beaucoup de béton associé à son œuvre scientifique à Grenoble.
Alors, vous avez expliqué qu'il a fallu évidemment reporter un certain nombre de choses. Au départ, cette commémoration devait être au moment de la date anniversaire, hein, du 11 décembre. Est-ce qu'il reste quelque chose qui va avoir lieu ce jour-là pour marquer le coup quand même ou...
Alors, pour marquer le coup ce jour-là, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir en parler dans la presse. Donc, on a essayé via des chaînes de télévision, des chaînes de radio. Donc là, on est en train de travailler là-dessus, de profiter de la date du 11 décembre, qui sera donc le cinquantenaire de la remise du prix Nobel à Louis Néel jour pour jour, d'avoir un petit reportage sur Louis Néel, parce que c'est vraiment l'occasion pour célébrer cet anniversaire de diffuser des reportages dans les médias et également faire la promotion de cet événement que nous organisons donc 6 mois plus tard exactement, car en effet, nous avons dû reporter. Initialement, en fait, nous voulions organiser ces journées les 11, 12, 13 décembre, mais à cause des conditions sanitaires, nous avons dû reporter cela. Et aussi, voilà, l'occasion d'annoncer cette collection ouverte sur Halle qui sera prête pour le 11 décembre.
Le comité Nobel a décidé d'annuler la remise des prix Nobel cette année à Stockholm. De la même manière, on est forcé de repousser notre jubilé de cette remise de prix Nobel il y a 50 ans.
Ça paraît logique, oui. Alors bon, j'imagine que c'est et ça va être encore beaucoup d'organisation, beaucoup de travail, en plus de votre travail de chercheur. Hein, vous êtes en poste scientifique à plein temps ou à peu près, j'imagine.
Mm-hmm. Et donc, pour moi.
Très bien. C'est déjà une expérience pour vous. Est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà fait plus ou moins dans d'autres cadres ou c'était tout nouveau? Comment vous l'avez vécu et est-ce que ça vous donne envie de continuer ou...
Alors, je vais commencer. Dans mon cas, j'ai déjà organisé, enfin co-organisé, parce qu'évidemment, on ne fait jamais ça tout seul. J'ai déjà co-organisé plusieurs événements scientifiques, mais jamais d'une telle ampleur. Donc, j'ai organisé des fois des conférences ou des écoles destinées aux jeunes chercheurs. J'organise aussi, par exemple, je suis co-directrice d'une école qui se produit chaque année, une école de 5 semaines, justement sur les grands instruments que sont la diffusion des neutrons et la diffusion par rayonnement synchrotron, où là aussi, c'est un gros travail d'organisation, faire les emplois du temps, enfin faire la promotion de tout cela. Mais c'est la première fois que je co-organise un événement d'une telle ampleur. Ce que j'entends par là, c'est que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça n'était que la partie conférence, alors que là, nous avons à côté tout ça, ces expériences, cette exposition, faire venir la troupe de cirque. Cet aspect-là, pour moi, est complètement nouveau et je trouve ça passionnant d'organiser un tel événement. Et d'ailleurs, je remercie vraiment Aurélien d'avoir fait appel à moi pour rejoindre le comité d'organisation. Et oui, clairement, ça me donne envie de continuer, enfin, d'avoir d'autres occasions à l'avenir d'organiser de tels événements. Je trouve ça vraiment passionnant. Et aussi, il me tient à cœur, c'est aussi parce que voilà, je suis enseignant-chercheur, donc mon côté enseignante joue forcément un rôle là-dedans. Ça me tient beaucoup à cœur, en effet, de pouvoir faire découvrir, faire connaître mieux la science au grand public, la rendre plus accessible. Ça, c'est aussi quelque chose que je trouve passionnant, ce côté vulgarisation.
Moi, de mon côté, de la même manière que Béatrice, j'ai organisé beaucoup d'événements scientifiques, hein, pour les scientifiques, avec les scientifiques. Moi, j'ai toujours essayé de donner une couleur festivalière à ces écoles et ces événements. J'aime beaucoup donner des festivals scientifiques plutôt que des conférences scientifiques. Après, je me suis aussi occupé pas mal d'un événement récurrent qui est tous les ans, qui s'appelle Pint of Science, qui est un événement qu'on organise tous les ans dans les grandes villes de France.
Qui a dû s'adapter cette année aussi, d'ailleurs.
Qui a dû s'adapter aussi cette année. Et donc, où on extrait les chercheurs de leur laboratoire pour leur faire de la vulgarisation, mais une bière à la main avec le grand public dans des bars. Et donc, c'est un peu une progression. Mais effectivement, d'une telle ampleur, jamais. Et puis, c'est surtout, on va se confronter au grand public. Pour vraiment, là, vraiment, c'est le grand public. C'est une vraie nouveauté. Et bah voilà, on a à la fois l'excitation de le faire, et puis bah l'angoisse aussi de est-ce que notre façon d'organiser ces choses, bah au final, est-ce qu'elle est adaptée au grand public, à quel point le grand public va l'accepter et surtout l'aimer pour ce qu'elle est, pas uniquement pour le côté hommage, vraiment le côté de l'organisation. Voilà, ça va être un test, un grand test, et on a hâte de voir le résultat.
En effet, pour compléter ce que dit Aurélien, quand on organise une conférence ou une école destinée à des scientifiques, on n'a jamais trop de surprises sur le nombre de personnes qui vont être intéressées, qui vont s'inscrire.
Connaissez la communauté à qui vous vous adressez.
C'est ça. Alors que là, une des grandes difficultés pour nous, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes qui vont venir à cet événement. Ça, c'est complètement nouveau pour nous. Donc, c'est ce côté un peu angoissant dont parlait Aurélien.
C'est un peu ce qu'on organise d'habitude, c'est la science est connue et elle va être bien faite. C'est plus le côté un petit peu social, le côté entertainment qui est associé à ces événements qui est jugé par les scientifiques. Là, en fait, on change de paradigme et en fait, c'est vraiment c'est l'aspect important et l'aspect, on va dire, ludique et organisationnel. Et le côté scientifique, ça sera vraiment le bonus. C'est que si on arrive à faire passer ce côté scientifique au grand public, on aura réussi notre coup.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Dans son discours au banquet de remise des prix, Louis Néel fait remarquer qu'en matière scientifique, on a souvent des prédécesseurs beaucoup plus anciens qu'on ne le pense a priori. Il se réfère là à Pierre de Maricourt, qui est auteur de ce qui est connu comme le tout premier traité sur les propriétés des aimants. C'était en plein Moyen-Âge, en 1269. Et Néel note, toujours dans ce même discours, que la liaison université-industrie dont on parle beaucoup aujourd'hui est en réalité très ancienne puisque la lettre de Pierre de Maricourt se préoccupait principalement, dit-il, des applications du magnétisme aux boussoles et aux compas de marine pour la navigation. Un discours donc de 1970 par Louis Néel qui reste bien d'actualité aujourd'hui avec ce sujet sur le rapprochement des industriels et des académiques sur la question de l'innovation.
Je suis cette mouche sur sa bouche, elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche posée là sur sa bouche, je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tirer d'elle sur ses lèvres. Moi j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler sur ses lèvres. Moi j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche posée là sur ma bouche, demanda-t-elle au peintre qui lui dit comme c'est joli de voir cette mouche dessinée sur ta bouche. Et moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser sur ses lèvres. Moi j'avais déposé le plus doux des plus doux baisers sur ses lèvres. Moi d'une gifle elle m'a tué, croyant que je voulais la piquer. J'étais une mouche posée sur sa bouche, elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche écrasée sur sa bouche. Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime, sinon elles deviennent piquées. Sur ses lèvres, moi je m'étais posée pour lui dire que je l'aimais. Mais les femmes, moi je ne m'étais pas méfiée. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. J'étais une mouche posée sur sa bouche. Je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que j'allais la piquer. Que c'est dur d'être une mouche, tant d'autres que vous prennent la mouche. De moi il ne reste qu'un point sur un tableau, comme le ciel est loin. Sur ses lèvres, moi je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais des femmes, moi je ne
c'est vraiment bête à tuer. Une mouche, c'est vraiment bête à tuer. Une mouche, c'est vraiment bête à tuer.
Parce qu'ils nous aident à réfléchir et à comprendre le monde, les artistes ont aussi leur place dans le miroir des sciences, émission qui donne la parole aux médiateurs de la connaissance, qu'elle soit scientifique, littéraire ou sociétale. Le mois de la photo devait avoir lieu en novembre à Grenoble, à l'initiative de l'association d'éducation populaire La Maison de l'Image. Expo fermée deux jours après son inauguration fin octobre, mais Sébastien Berger, encore lui, nous propose une petite madeleine de consommation juste avant la fermeture. Il avait rencontré Marie Mons, qui est une des invitées du festival. Et avec le travail présenté à Grenoble cette année, l'artiste explore la question de la famille dans la société antillaise. Elle évoque le caractère insulaire des Antilles, mais aussi l'histoire marquée par les fondements traumatiques de la société coloniale, les croyances, ainsi que le métissage revendiqué aux Antilles comme une identité culturelle.
De manière générale, j'utilise l'autoportrait pour parler de l'intime. Et dans cette série, Un sourire de casse-pilote, oui, les questions de l'héritage culturel et familial, c'est une recherche autour de la personne de mon grand-père que j'ai très peu connue. Je l'ai intitulé Un sourire de casse-pilote parce qu'il est né en casse-pilote. C'est une des premières choses que j'ai su et je suis allée chercher le reste lors de trois voyages en Martinique. Et puis cette carte postale que l'on voit devant nous, Un sourire de casse-pilote, c'est une forme, une phrase toute faite, une formule de carte postale. Et j'ai trouvé que ça pouvait très bien résumer cette histoire entre le lien distant d'un père très peu présent qui écrivait quelques cartes postales à ma mère qui ont été conservées et qui sont visibles ici, un petit peu comme des reliques.
Oui, il y a plusieurs cartes postales qui apparaissent sur vos photographies. On va s'approcher de deux d'entre elles, justement, si vous pouvez nous les commenter.
Alors, c'est une nature morte avec un citron vert, un fruit de la passion, deux roses et puis un photomaton de mon grand-père. Ici, prise de vue en noir et blanc. Dans les années 40, je pense, sous son meilleur jour. Il apparaît assez beau. Je me suis rendu compte que, en rencontrant les demi-sœurs de ma mère sur place quand j'étais en Martinique, qu'il avait donné la même photographie à plusieurs de ses compagnes. Et au verso, il y avait un petit mot adressé à ma grand-mère qui était signé bien affectueusement. Je me suis souvent questionnée de la teneur des autres mots verso, et s'il y en avait d'ailleurs.
D'accord. Et juste en dessous, un autre grand tirage de photos qui s'appelle la photo d'identité.
Oui.
Sur lequel on voit apparaître d'autres. Alors là, on dirait des cartes postales de vacances. De quoi s'agit-il?
Mon grand-père, comme un Antillais, prenait ses vacances à la Martinique aussi. Dans des villages où il pouvait, pour vacanciers, où il pouvait se reposer. Donc j'avais retrouvé cette carte postale qu'il avait adressée à ma mère et j'ai longtemps été intriguée par rapport à la dernière phrase du texte. Il disait « La France a changé de politique et c'est l'avenir qui nous dira si elle sera plus bénéfique pour elle ». C'était une carte postale envoyée en 81 et puis ce nouveau président au pouvoir, il a souvent évoquer la figure d'Aimé Césaire et il appelait la Martinique ou en tout cas les dom-toms la France lointaine et si proche. Donc je voulais mettre en évidence ce lien distant qu'il y avait entre les départements d'outre-mer et ce qu'on appelle la métropole. Et c'était une anecdote à teneur historique que je voulais mettre en évidence.
C'est là que la mémoire de la famille rejoint un peu la mémoire historique, et puis les liens filiaux permettent de rattraper les liens qu'il peut y avoir géographiques ou historiques.
Oui, ces deux liens sont en tout cas assez complexes et compliqués, mais de travailler les deux ensemble au sein de la même série lui ferait prendre corps aussi.
Très bien, on va parcourir votre espace d'exposition. Et il y a une autre, un autre cliché que vous vouliez nous commenter. Alors, on retourne là sur vraiment l'histoire familiale, encore plus proche de vous cette fois-ci.
Oui, oui, c'est vrai que ce projet il prend naissance au travers de trois voyages. Le premier voyage, ça correspondait à un moment de recherche autour de mon grand-père quand j'attendais ma fille. Et puis, pendant le deuxième voyage, je suis allée au contact de la culture antillaise au travers du carnaval de Martinique. Parce que c'était un moment de rupture avec ce qui se passe habituellement dans l'année. Tous les codes sont inversés, tout est chamboulé. Et c'est un moment de joie de vivre brut comme ça, de liesse avec l'atmosphère très frénétique du carnaval. C'est une nuit moite que je voulais mettre en valeur au travers d'histoire. Et puis, pendant ce dernier voyage, c'est la photo qu'on voit là, je suis représentée avec ma mère et ma fille. Et c'était une manière aussi de parler du métissage et de cet aspect transgénérationnel aussi au travers de notre héritage culturel, ce qu'on a choisi de garder, laisser, et puis ce qu'on se transmet aussi, forcément. Et l'identité culturelle des Antilles, l'identité créole est bien entendu très riche et multiple. Et c'était aussi un des messages que je souhaitais montrer ou donner au travers de cette série. Enfin, en tout cas, je voulais représenter la diversité de la culture martiniquaise et des Antilles au travers de ces images-là.
Oui, quand on parle de mémoire, on peut penser aussi à l'oubli. Est-ce que votre travail est aussi un témoignage de cette identité justement qui est vivante à travers vos liens de famille, une manière de parler de cette identité dont vous êtes peut-être un peu éloigné, ou en tout cas certaines personnes s'éloignent?
C'est pas qu'on s'est éloigné, c'est qu'on n'y a pas eu accès en fait, parce qu'on n'a jamais, ni ma mère ni moi, nous n'avons vécu en Martinique. Et puis cet homme finalement, on l'a très peu connu, et c'était plutôt une manière de d'appeler un souvenir ou d'appeler des souvenirs, de contact, enfin d'aller au contact du souvenir, de le forcer à venir peut-être. Voilà.
Marie Mons, merci.
Merci à vous.
Retrouvez le travail de Marie Mons sur son site Marie Mons tout accroché, Mons c'est M-O-N-S tout simplement, mariemons.cargo.site. C'était le Miroir des Sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. 11 décembre, 50e anniversaire du prix Nobel de physique de Louis Néel. Merci à Sophie Delmas et Odile Frossard du service des archives du CEA pour la documentation. Et peut-être un appel du pied à la ville de Grenoble pour baptiser une place ou une rue du nom de Louis Néel, physicien emblématique de la science tel qu'on l'aime à Grenoble, à l'interface entre le monde académique et le monde industriel. Bonne chance à Béatrice Grenier et Aurélien Masbeuf, et rendez-vous avec eux en juin prochain pour 3 jours de fête en hommage à Néel et à ses découvertes. Illustration musicale de l'émission avec Michel Polnareff, Pierre Henry et André Mainviel. Vos idées, vos commentaires, vos suggestions sur la page Facebook du Miroir des Sciences. L'émission est disponible en réécoute sur les principaux flux de podcasts, sur SoundCloud et sur le site de RKS. À bientôt sur RKS, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.